Salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue aux amateurs de sport. Je vous souhaite un bon début de fin de semaine. Il fait beau dehors. Je fais une couple d'heures, j'ai pas mis le nez dehors, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que le Canadien a gagné plus souvent qu'il a perdu dernièrement, que Danny Dubé a envie de me chanter. Là, tout le monde est de bonne humeur. Avoue que tu te retiens, Danny, là.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr. Les cuillères sont sorties. T'es prêt, à taper, là, tout.
Avec la voix que j'ai, mon ami, là.
Ouais.
Tu veux pas m'entendre chanter.
On veut pas entendre ça.
Non, c'est sûr que ça aide pas, ouais. Ça aide pas le reste de ton émission.
Ben, ta femme nous a déjà raconté que pour chanter à la pomme, t'étais pas pire, par exemple.
Oui, oui, c'est un autre dossier complètement.
C'est une autre affaire. Puis ça date, aussi. J'espère que t'as rafraîchi ton discours.
Ben, là, je sais plus comment faire.
Danny, tu me permets juste de dire aux gens qu'est-ce qu'on leur propose ce soir, juste avant d'attaquer le menu qu'on a dans notre chronique. Alors, Benoît Brunet sera là dans les prochaines minutes. Philippe Quentin va nous parler de Stuart Stenberg, qui est le propriétaire des Rays de Tampa Bay, qui croit pas, même s'il croit une garde partagée, qui ne croit pas que le Montréal peut accueillir une équipe de baseball à temps plein. Pas de garde partagée. Alors, ça sera fort intéressant comme discussion. Mario Tremblay, Martin McGuire, Vincent Destouches, Piatti, coudon. Il va-tu revenir jouer avec l'Impact? Je pense que c'est une question tout à fait pertinente. Et NFL, de même qu'Hockey Junior avec Bruno Eppel et Stéphane Leroux. Maintenant, Danny, c'est sûr qu'il y a plus de monde de bonne humeur dans l'environnement du Canadien ces temps-ci après 4 victoires en 5. La possibilité d'une 5e en 6 demain. C'est pas un tour de magie qui est arrivé là. Qu'est-ce qui a permis aux Canadiens de renverser la tendance négative, comme celle que les Browns vivent en ce moment avec 5 défaites? Là.
Ben oui, ben écoute, c'est un moment ou l'autre, tu vis l'adversité, c'est une opportunité. Quand il y a de l'adversité, c'est une opportunité, t'en fais ce que tu veux.
C'est vrai.
Tu peux te déchirer, tu peux te diviser. Lorsque les gens sont en mode solution, habituellement, tu trouves toujours une manière de te rassembler autour d'une cause commune. Moi, je trouve que les entraîneurs du Canadien ont vraiment très bien travaillé ça. Puis comme je te disais hier, pour ceux qui n'ont pas entendu, lorsque tu as deux joueurs d'avant près des défenseurs et de la rondelle, tes défenseurs et de la rondelle, très rarement tu es dans le pétrin. Parce que c'est une question de nombre. Si tu es quatre autour d'une rondelle, ça veut dire que l'adversaire, là, arrange ça comme tu veux. Ils peuvent pas être quatre autour de la rondelle. T'as les trois attaquants, il y en a un au filet, ça fait qu'il en reste deux. Fait que là, tu lances un défenseur dans l'attaque, tu prends des risques. Ça veut dire que ton jeu, plus il est hermétique défensivement, plus moins il est permissif, plus tu forces l'adversaire à prendre des chances pour produire offensivement. C'est un peu ce que le Canadien a réussi à faire au cours des dernières, je dirais, deux semaines. Puis, en même temps... on a mis de l'ordre dans la cabane parce que il y avait tellement d'erreurs stupides là.
Ah oui.
Ça avait aucun bon sens de voir. Tu sais, le gars, aucune lecture de jeu avant avant de se lancer. À un moment donné, tu dis, hey, écoute, on monte ça dans le hockey mineur, là, t'as une minute là. Fait qu'il y a des choses que les joueurs. Non, mais c'est vrai.
Ah oui, t'as raison.
Tu sais, il dit, on pinche. Ben oui, mais tu pinches. C'est quoi le jeu souricière, défenseur qui descend vers l'ailier? Oui, c'est correct. À condition que tu arrives au bon moment, à condition que tu arrives pas en même temps qu'un autre joueur, à condition que le joueur d'avant vienne prendre ta place. Donc, il y a une question de positionnement, de lecture de jeu, de prise de décision. Si tu fais pas ça, tu n'es pas responsable. Moi, je pense que les joueurs du Canadien, à certains égards, il y a eu un moment où ils n'étaient pas responsables.
J'ai une question pour toi. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais je pense que tu vas aimer ça parce que je vais te parler de coaching et des entraîneurs. Il y a eu une vague qui a secoué le monde du coaching, tu es d'accord, là, Danny, les dénonciations récentes, les congédiements, puis aussi d'autres pour des raisons de performance. Remarque qu'il y a peut-être des comportements douteux qui ont été abriés sous le couvert des contre-performances pour pas faire trop de controverses. Il y en a qui n'ont pas donné trop de détails. Mais dans un contexte où certaines étoiles ont pâli, qui sont les entraîneurs références dans la LNH en ce moment, en 2019? Et est-ce que Claude Julien est l'un de ceux-là?
Ben, Claude fait partie de ce groupe-là parce que ce qu'il a sous la main pour travailler et ce qu'il réussit à obtenir de ce groupe-là, c'est vraiment exceptionnel. Puis venez pas me dire que c'est le gardien qui fait la différence. Là. C'est pour ça que ça change les
pas
résultats.
Cette année, non,
parce
pas
que date. Ben non, parce que lorsque l'équipe joue pas bien, le gardien pouvait pas faire à lui tout seul. Donc pour moi là, il fait partie de ce groupe là. Maintenant, une fois qu'on a puis tu sais, c'est séquentiel là, mais on parle aujourd'hui là, si je regarde aujourd'hui.
Oui.
Une fois qu'on a éliminé la situation du Canadien de Montréal, il y a quand même des... Moi, je veux dire, Cassidy à Boston, c'est un entraîneur qui m'impressionne. La façon dont il gère son équipe, tout ça, je trouve qu'il fait de l'excellent travail. Vraiment, là, Tu sais, il semble avoir l'équipe bien en main. Il semble à l'aise avec son équipe. Puis c'est pas... Je suis toujours impressionné quand l'entraîneur, ça fait quelques années qu'il est là, puis il continue d'avoir l'emprise sur le message, sur la façon de jouer, etc. Mm-hmm. Donc ça, c'est pour moi, c'est un entraîneur qui est référence.
Évidemment, il y a des résultats depuis qu'il a succédé à Claude, mais je te laisse enchaîner. Oui.
Exactement. Puis eux, là, lui... Il bénéficie d'une organisation qui est bien en avant de la plupart, en tout cas, je trouve, au niveau du développement, du repêchage, du développement des joueurs, ils font vraiment un travail extraordinaire, là, contrairement à d'autres. Puis ça aide Cassidy, là. Ça milite en sa faveur. Barrett Roth, c'est un entraîneur qui... tu sais, les gens vont parler peut-être du système de jeu. Moi, je pourrais parler du système de jeu. J'ai mes raisons de croire que... son système a marché ou fonctionné avec les Capitals de Washington, parce que Washington était une équipe qui était très bien nantie. Maintenant, le même système de jeu appliqué aux Islanders de New York fonctionne en saison. Je suis pas sûr qu'il va obtenir les mêmes résultats en série d'après saison, mais ça reste un entraîneur qui a le tour d'aller, c'est important. Ouais, il a le flair, un gars qui est très terre à terre. C'est un gars, donc, qui son humanisme, son côté très accessible, fait qu'il y a un bon contact avec les joueurs. Et il est capable de créer, il se prend pas au sérieux, c'est pas un gars prétentieux, il est là pour les bonnes raisons, il démontre qu'il est capable de prendre des décisions difficiles à prendre, mais qu'il est toujours en harmonie avec ce que l'équipe a décidé qu'elle allait être, puis lui, il est là-dedans. Il s'inclut là-dedans. Donc, lui, c'est vraiment...
C'est des bons noms. C'est des très bons noms. Puis, j'aime le fait que tu as mis Cassidy là-dedans, parce qu'en plus, lui a succédé à Claude Julien. Puis, quand ça va mal à Montréal, ben là, ce qu'on entend dans le propos là collectif, c'est que on pointe en direction, ben Claude Julien est pas l'entraîneur pour les jeunes. C'est pas le gars de la situation. C'est pour ça qu'on l'a remplacé à Boston. Puis, regardez ce que Cassidy a fait avec les jeunes. Est-ce que Claude Julien est en train de... Puis, il l'a déjà fait, parce que Bergeron et Marchand et bien d'autres ont déjà été jeunes. By the way. Et Pasternak, il y en a qui oublient vite là, quand ça sert leurs propos. Non. Mais dirais-tu qu'il prouve une nouvelle fois que... A-t-il la touche avec les jeunes? A-t-il la touche avec les joueurs?
Je vais te dire une chose. Là, pour avoir la touche avec les jeunes, il faut que tu aies ton vestiaire. Tu comprends?
Parce que fais pas ça tout seul.
Tu fais pas ça tout seul. C'est tes vétérans qui t'aident avec tes jeunes. Okay. Alors, c'est super important que les gens comprennent que quand tu fais tu bâtis ton environnement, tu as des poteaux dans le vestiaire. Puis ces gars-là, il faut que ce soit des bons vétérans. Parce que c'est les vétérans qui vont t'aider avec les jeunes. Puis c'est aussi les vétérans qui vont dire « Hey, on a un problème avec ce gars-là, coach, là, un vrai problème. Voici ce qui se passe. » Parce que ils sont capables, eux, ils sont à cheval sur la clôture, là, les vétérans leaders. Là. Mm-hmm. Ils travaillent des deux bords. Ils travaillent avec le coach, puis ils travaillent avec le vestiaire. Donc, avec les joueurs, les coéquipiers. Donc, c'est des joueurs extrêmement importants. Ils peuvent faire basculer le truc d'un côté ou de l'autre.
Parlez-en avec Babcock.
Ben là, exactement. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose que certains entraîneurs réussissent à cerner rapidement. Ils ont ce doigté. Puis, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, pour des raisons que j'ignore, là, mais il y en a qui sont encore dans le vieux modèle. Tu sais, j'arrive, je suis le boss, puis vous allez faire ce que je dis. Puis si ça fait pas, ben bye. Là, mm-hmm. Mais dans la Ligue nationale, il y a eu une époque où les entraîneurs qui avaient la poigne puis qui travaillaient, qui étaient durs avec les joueurs, c'était permis et ça passait le test parce que le mouvement de personnel était très facile. Tu pouvais changer les joueurs vite. Là, tu pouvais te débarrasser d'un joueur vite, tu pouvais en rentrer un autre vite. Maintenant, avec le plafond salarial, avec toute la mécanique financière, avec tout ce qui... les restrictions, écoute, tu fais pas ce que tu veux, là. Puis aujourd'hui, c'est la même chose chez les juniors. Parce que tu peux plus échanger un joueur junior comme avant. Parce que là, il y a l'école, il y a ci, il y a ça. Fait que là, il y a bien des gars qui fonctionnent. Je sais pas s'il en reste beaucoup, là, parce que je suis pas vraiment en contact avec le junior. Mais ceux qui pensent encore de la vieille façon, puis ils travaillent encore avec les vieilles méthodes... Mais les jeunes doivent leur tomber sur les nerfs royalement. Puis ils doivent avoir beaucoup de difficultés à vivre avec le fait que tu es un peu pogné avec ton équipe. Mais être pogné avec ton équipe, c'est de te placer en mode solution, puis de travailler pour être créatif, puis de travailler pour trouver des solutions pour que ton équipe fonctionne. T'sais. Puis tu seras toujours à la remorque de tes meilleurs joueurs en termes d'attitude et de comportement. T'sais, tu peux avoir des joueurs là qui sont super talentueux, là, Mais attitude et comportement, ça, c'est les éléments qui font que tu gardes ou tu perds ta job.
Et si t'es tout seul à avoir un comportement douteux, ben tu te retrouves vite isolé dans une chambre qui est bien menée. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons leaders. On s'est prononcé, ça fait une couple de semaines, on a abordé ici et là le sujet, là, peut-être pas de façon tout à fait directe, dans les balados sortis de zone aussi. D'ailleurs, je vous signale que le nouveau balado est disponible depuis cet après-midi en onde avec nos collègues de la presse. Mais
avez-vous parlé de la bataille dans le junior?
On a parlé de la bataille dans la Ligue nationale, surtout, parce que le junior, on verra, puis il va en avoir encore de la bataille. On parle juste de sortir un gars pour un match. Fait que rendu à l'adoption des règlements, mais si tu as envie de parler de bataille, m'a t'amener ses propos de Drew Doughty. Drew Doughty qui dit, c'est important les bagarres. Il y a des rats dans la Ligue nationale, puis à un moment donné, ben ça prend un traitement choc, si tu me permets de paraphraser ce qu'il dit. Mais en même temps, c'est rare que les joueurs ont avoué qu'ils sont contre les bagarres. Les joueurs actifs, là, dans un très fort pourcentage, ont toujours été en faveur de la présence de bagarreurs. Sauf que là, on est dans une ligue où il y a encore de la bagarre, mais où il n'y a plus vraiment de bagarreurs. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Danny?
Ben, en fait, c'est que de permettre la bagarre, c'est d'accepter quelque chose qu'on essaie d'éliminer. C'est-à-dire les coups à la tête. C'est une les batailles, c'est très dangereux maintenant parce que les joueurs de hockey, ce sont de super athlètes. Puis, il y a aussi maintenant une grande disparité entre les plus grands et les plus petits. Avant, là, tu sais, un joueur, écoute, il y a des joueurs à 5 pieds 6, 5 pieds 7 dans la Ligue nationale. Puis d'autres à 6 pieds 3, 6 pieds 5. Donc, il y a une grande disparité. Le jeu est axé sur autre chose, la vitesse, la finesse, etc. Moi, je pense que c'est... je comprends que c'est un sport spectacle, mais je doute que papa, maman, les enfants vont au hockey et souhaitent voir une bataille. La misère avec ça. Et le fait que les athlètes soient de super athlètes, ma crainte, c'est qu'un jour, il y a un coup de poing qui arrive violemment à la tête d'un joueur et qu'il soit pas prêt à prendre le coup dans le sens qu'il est hors équilibre, etc., puis qu'il arrive quelque chose et que ça devienne quelque chose de dramatique. Donc,
non, moi, c'est une crainte légitime, Danny, c'est sûr.
Moi, je pense qu'on est rendu à une place où il faudra dire aux gens, dont Drew Doughty, dire, il n'y a plus de bataille. Il faut que tu te fies aux arbitres puis à la Ligue nationale. Et là, la Ligue doit prendre des positions très draconiennes par rapport à des choses très précises.
Oui, pour éliminer les rats, si tu me passes l'expression. Parce qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a. Il n'y a pas tard d'arty, là. Il y en a des coups salauds. Je ne sais pas s'il y en a plus que dans le temps. Je ne les ai pas mesurés. Y a-tu plus de coups de bâton, de cinglage, de coups de traite, de coups par en arrière?
J'aurais
tendance à te dire que peut-être oui, non?
Le bâton, non? Écoute, regarde combien de fois un joueur volontairement va frapper un autre qui est... vulnérable.
Ah, ça, là-dessus, par exemple, tu vois qu'il y a une prise de conscience. Ah, le long des bandes, particulièrement,
énormément.
Les blindsides qu'on appelait, là.
Ouais, c'est ça.
Aussi, au milieu de la glace, là, à la Matt Cook, là.
C'est ça. Je pense que ces gars-là, tu parles de Matt Cook, c'est un bon exemple. Tu sais, les petites pestes, les gars qui, des brasseux, mais qui posaient des gestes vraiment illégaux, qui n'étaient pas fair-play, qui se tenaient pas debout. Il y en a de moins en moins. Tu sais, je pense qu'une des choses que les joueurs ont de la difficulté, c'est que le joueur établi, vétéran, qui se fait vraiment frapper solide, là, une bonne mise en échec, lui, il est comme... Il veut pas se faire frapper, tu comprends? Il y a 82 matchs à jouer, il est établi, il se fait 10-15 ans qu'il est dans la
ligue. Comme Weber avec Tkachuk cette semaine autour du but, là.
Oui.
À titre d'exemple, c'était pas la mise en échec la plus sévère, mais il l'embarrassait un peu.
Mais Tkachuk, il l'a frappé à plusieurs reprises, épaule à épaule, Weber. Oui. Weber, il l'a pris, mais il a pris la mise en échec.
Oui.
C'est correct, tu sais, ça fait partie du jeu. Moi, je dis toujours une chose. Si tu mets quelqu'un, un autre joueur en échec, c'est dans le but de permettre à ton équipe ou de te permettre toi-même, là, ou d'être capable de récupérer la rondelle. Si, quand je te regarde jouer, tu frappes l'adversaire, je suis pas capable de déterminer ça, pour moi, là, si je suis responsable de la sécurité des joueurs, moi, pour moi, automatiquement, le joueur va être... Tu sais, on va sévir, là, c'est automatique. Là, c'est ça, ce bout-là, là, Je comprends que le jeu est vite, mais honnêtement, Mario, ce bout-là, là, facile, facile.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Danny, on est déjà presque rendu à la fin de notre chronique. Ben Brunet s'en vient, mais là, on va retourner dans le temps, loin dans le temps, c'est-à-dire dans nos jeunesses, dans nos jeunesses respectives. Toi, t'as grandi à Bécomo au Trive, dans ce coin-là. Quand t'étais jeune, là, c'était quoi le gros calibre dans ta ville, là? C'était du Junior B?
Junior B,
OK, puis c'était qui la grosse rivalité, là?
Bécomo au Trive.
Avant que ça soit fusionné, j'imagine.
Festival de la Mornif en arrière de l'aréna.
Danny Dubé, quand t'étais jeune, je te dis comment ça a changé. Quand tu savais que Bécomo jouait contre Autrive un vendredi soir à l'aréna, là, toi, t'allais pas à l'aréna, tu sais pas voir ça.
Ben, là, j'arrivais de bonne heure. Mon grand-père passait à Zamboni, en plus.
En plus!
J'avais un ticket gratuit.
T'avais-tu le siège comme au Centre Bell, le petit siège pour l'accompagner, là, du spectateur?
Non, ça existait pas, à ce temps-là. J'aurais été dessus, c'est sûr.
Ouais. Il m'a dit une affaire. Ça me rappelle des souvenirs, nous autres, ici, là. Quand Magog jouait contre Asbestos War et Sherbrooke.
Non, mais
tu c'était ça, on vendait le hockey de même, qu'est-ce que tu veux?
Ben oui, c'est ça. Puis il y avait des batailles, puis j'ai coaché, il y avait des batailles. Puis
c'est un autre monde.
C'est un autre monde, puis c'est bien qu'on passe à autre chose.
Welcome to the new world. Merci beaucoup, Danny. Bonne soirée, bonne fin de semaine.
Merci.
Bye. Benoît Brunet, après la pause.